locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Ce soir, le pédalo pédale dans le vide, et oui, la Loire est à sec. Et ce ne sont pas les quelques gouttes de ces derniers jours qui vont nous faire oublier l'été caniculaire que nous venons de passer. La Loire est peut-être l'argument principal et l'atout majeur de notre département quant au tourisme. Alors si on n'y voit plus que le fond, comment faire vivre le tourisme dans le Maine-et-Loire ? On en parle tout de suite sur Radio Campus Angers avec Mathilde Favre-Dane, élue à la ville d'Angers, adjointe au rayonnement et au tourisme. En deuxième partie d'émission, on entendra un reportage Murmure, réalisé par Sofia Pavanini, qui est allée se balader à la Maison de l'Environnement. Le pédalo va tenter de ne pas s'échouer sur les bancs de sable de la Loire ce soir. Alors ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Mathilde Favre-Dane, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Hugo, merci de m'accueillir pour cette soirée.
Eh ben avec grand plaisir, nos copains de l'Afterwork nous ont laissé le studio chaud, chaud comme le climat.
Merci Olivier Pascal, en effet.
Vous êtes adjointe au rayonnement et au tourisme de la ville d'Angers. Tout d'abord, Mathilde Favre-Dane, comment ça va ? La saison estivale touche à son terme, c'est la rentrée. Les étudiants reprennent petit à petit le chemin des amphis, les parents retrouvent les grands open space. Évidemment, effet balancier, les campings et les hôtels se vident. C'est la fin des soirées mousses. Comment s'est passée la saison touristique à Angers ?
Eh bien, plutôt bien. En effet, après deux années de Covid, bien compliquées, je pense qu'on a retrouvé un niveau de fréquentation au même équilibre, voire même au-delà que l'année 2019, qui était notre année de référence. Donc on a le vent en poupe cette année sur la ville d'Angers, sur l'agglomération, sur notre communauté urbaine. Je le rappelle, 29 communes qui font partie d'Angers-Loire Métropole, qui vont du nord au sud, Écuyer, Soulaines-sur-Aubance, et puis Loire-Authion vers l'extrême ouest. Saint-Clément-de-la-Place et Saint-Martin-du-Fouillou, voilà, qui sont nos deux extrêmes. Voilà, on a eu une activité assez débordante avec des hôteliers, des restaurateurs, des sites de camping et des sites touristiques reboostés à fond pour finir la saison.
Dans le communiqué publié par Destination Angers, qui est un peu l'office du tourisme angevin, vous pointiez du doigt deux événements qui auront marqué la saison de leur empreinte, Naturist Bike et le Congrès mondial de l'horticulture. Le Congrès mondial de l'horticulture, vous dites 2500 congressistes, dont 75% d'étrangers et des séjours de plusieurs nuitées. Je suppose que ça doit vous satisfaire.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas par hasard, évidemment, si Angers a été choisi pour accueillir ce Congrès mondial il y a 8 ans, fort de notre territoire et de la force que nous avons ici à accueillir. Eh bien, 8 ans de construction pour accueillir un congrès de 2500 personnes, 88 nationalités différentes, des symposias partout sur le territoire, des accueils presse, des congrès scientifiques, voilà, qui ont abouti à d'énormes co-constructions, on va dire, pour l'avenir. Et c'est notre avenir aussi qui nous intéresse. Mais voilà, ce congrès a été une vraie réussite, autant pour les hôteliers qui avaient préparé cet accueil, autant pour tous les acteurs de la ville d'Angers.
2500 congressistes, le chiffre est notable, puisque vous dites également dans ce communiqué de presse, qui est ma principale source jusqu'à maintenant, que la ville d'Angers a accueilli quotidiennement pendant cette saison estivale entre 1000 et 1200 personnes par jour. Donc là, c'est quasiment le double lors de ce congrès, même si ce congrès a duré évidemment 6 jours.
Tout à fait, mais les équipes étaient prêtes, tous les professionnels du tourisme étaient prêts à cet accueil. Il a été anticipé et voilà, maintenant qu'on est tous forts de ce côté-là, on va pouvoir en accueillir de plus en plus, très certainement.
Il est fait mention, toujours dans ce communiqué de presse, que 2022, et je cite, sera assurément un excellent millésime. Je suppose que les touristes étrangers sont aussi venus à Angers pour aller faire le tour des plus belles caves du département.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup.
Vous en savez quelque chose.
Et j'en sais quelque chose, en effet. J'adore parler millésime.
Voilà, vous êtes hôtelière et restauratrice
voilà. Et sommelière. Voilà. Mais en effet, quand on parle de millésime, alors les vendanges ont déjà un petit peu commencé ici dans le Val-de-Loire. Le retour, on ne parle pas forcément des touristes, mais le retour des vignerons est très positif pour ce millésime. Et le retour aussi de l'œnotourisme a fait vraiment sa place, je pense, sur notre territoire pour valoriser nos produits et notre magnifique terroir angevin.
Vous dites que les vendanges ont déjà commencé, elles ont même commencé un petit peu en avance cet été parce qu'il a fait très chaud. Il a fait assez chaud pour que des incendies se déclarent sur la région du Maine-et-Loire et plus particulièrement à Angers. Est-ce que le tourisme en a pâti de ces incendies ?
Le tourisme n'en a pas forcément pâti, à part pour les campings de plein air qui étaient aux alentours, mais on a réussi quand même à sécuriser les lieux. Et la présence des pompiers et d'une brigade vraiment étrangère en même temps sur les pompiers, pour sécuriser tous ces lieux, ont aidé à maîtriser, je vais dire, tous ces incendies, bien évidemment, qui ont eu lieu à la fois sur notre territoire, mais sur l'Hexagone aussi, qui a vraiment impacté le tourisme, pas que chez nous, mais ailleurs aussi.
Est-ce que vous avez eu des retours, peut-être, de touristes qui ont été effrayés par ces incendies, qui se sont dit, oh, bon, finalement, peut-être qu'on va annuler la balade du jour?
Nous n'avons pas eu de retour en ce sens sur notre territoire concernant les touristes qui étaient présents.
Un des principaux pôles d'activité d'Angers est, et je ne vous apprends rien, le végétal, notamment avec en tête de gondole Terra Botanica. Est-ce que ces sécheresses à répétition vous font peur, notamment pour Angers, cette ville du végétal ?
Oui, Angers, première ville verte de France, hein, 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est le double du niveau national, ce qui est une vraie performance, je trouve. Première ville où il fait bon vivre, Terra Botanica implantée depuis plus de 10 ans sur notre territoire. Le végétal, il faut le maîtriser et il faut aller chercher de plus en plus de manières de le faire vivre sans eau, en économisant, pardon, l'eau. Avec les messages du gouvernement, je pense que nous allons, et avec notre ministre, bien évidemment, de la transition écologique,
Monsieur notre Christophe maire... Béchu, également premier adjoint au maire.
Voilà, Monsieur Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, œuvre énormément pour travailler là-dessus, sur l'eau, sur la gestion de l'eau. Christiane Lambert...
Ceci étant dit... Il y a quand même des arrêtés préfectoraux qui ont été mis en place pour réduire imposer des restrictions dans l'arrosage des plantes, des espaces verts. Angers, ville du végétal, qui ne peut plus arroser ses espaces verts, sauf ceux du tram, quand même.
Exactement. Eh bien, pendant la période estivale, la ville a retiré toutes ces fleurs qui traversaient le pont de Verdun, qui était sur le bord du quai des Carmes, qui était à différents endroits parce qu'ils nécessitaient énormément d'eau. Et donc, ils ont arrêté cet arrosage-là qui n'était pas nécessaire.
Comment Terra Botanica s'en est sortie ?
Eh bien, en maîtrisant tout à fait la gestion de l'eau, en adaptant un programme de PTGE, programme de protection de la gestion des eaux, qui est mis en place depuis quelques temps. Et puis, Pierre Vatrolo, qui travaille vraiment sur le sujet, qui est le directeur de Terra Botanica, a fait très attention. On est plutôt sur, moins sur de l'arrosage, mais plutôt sur de la brumisation.
La brumisation, vous n'avez pas peur que ça s'évapore, justement, puisque c'est pas... Évidemment, dans ces conditions de sécheresse, on va préférer peut-être le goutte-à-goutte des produits qui vont...
Exactement, c'est tout ce qui a été mis en place, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour faire ces arrosages. Sur les plantations de la ville, quand on a eu des arbres jeunes qu'on vient de planter, ça, il est nécessaire, pour ne pas les perdre, de continuer à les arroser. Mais la maîtrise de l'eau nous a permis d'économiser de l'eau. On est en train de faire ce bilan, justement, de savoir comment on a combien on allait pouvoir économiser sur cette sobriété.
Est-ce que le tourisme végétal a encore de l'avenir dans le Maine-et-Loire quand on voit toutes les interdictions d'arroser justement émises par les préfectures ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de voir le végétal. Le végétal va pouvoir continuer à vivre. C'est sûr que nos espaces verts seront peut-être un peu moins verts, mais le temps hivernal va revenir. Ils vont se regorger un petit peu d'eau. On espère bien évidemment que la Loire va revenir à un niveau un peu supérieur que ce qu'il est à l'heure actuelle, parce que c'est un peu difficile.
Images sont saisissantes.
Oui, hein. Les images sont saisissantes. Et votre émission, c'est Pédalo. Il va falloir pédaler pour aller chercher comment faire de notre mieux, de faire de la sobriété une exemplarité aussi.
Le golfe d'Angers que j'avais en interview hier nous disait à ce micro que ils arrosaient de manière évidemment mesurée et responsable. Ceci étant dit, ils arrosaient leur green grâce à l'eau de la Loire.
Le golfe d'Angers avec l'eau de la Loire. Il me semble qu'ils ont des sources près de la Loire, mais l'eau de la Loire, ça m'étonne. Mais si c'est eux qui vous le disent, peut-être. Mais c'est une interpellation qui n'est pas neutre et peut-être qu'il faut aller chercher. Il y a d'autres golfs comme Saint-Sylvain. On va faire un autre exemple qui, lui, n'a pas besoin d'eau, du coup.
Comment imaginer le tourisme à Angers à l'heure du réchauffement climatique ?
À l'heure du réchauffement climatique, eh bien, vers un tourisme vert, ce sont vraiment les tendances hein, qui...
Un tourisme jaune, alors ?
Oui, alors tourisme vert, pour moi, c'est ne pas utiliser la voiture, c'est utiliser uniquement le vélo, des déplacements doux, à pied. Angers, c'est la ville du quart d'heure. On a moyen de se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, en moins d'un quart d'heure, sauf avec les bouchons, mais ça, c'est dans toutes les villes. Et donc, plus vers un tourisme vert, un tourisme éco-responsable où on va maîtriser tout ce que l'on fait et de comprendre quel est l'impact carbone de nous, de tout ce qu'on va pouvoir faire pour attirer. Parce que là, quand on parle de tourisme, on parle d'attractivité aussi du territoire et c'est de maîtriser tout ce type d'utilisation et de mise en avant de notre tourisme.
Est-ce que vous avez des exemples précis de choses que vous allez mettre en place comme tourisme vert ou des choses peut-être qui existent déjà et dont vous êtes fier ?
Le tourisme vert, c'est complètement ce qu'on a mis en place depuis 2 ans. On fête le 2e anniversaire. C'est le Nature Is Bike. C'est un festival entièrement vert, éco-responsable, qui a eu un label Rêve, événement éco-responsable. C'est un label qu'on a obtenu l'année dernière et que l'on pense obtenir sur son niveau 2 cette année encore.
Vous parlez de Nature Is Bike dans le communiqué de presse toujours, hein, j'y reviens. Vous revendiquez 500 vélos loués. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un chiffre que vous mettez en avant et pourtant, quand on entend le succès, comment vous le mettez en avant de cet événement Nature Is Bike, finalement 500 vélos loués, c'est peut-être un peu faible.
Alors 500 vélos loués, c'est nous à l'Office du Tourisme. Donc ça correspond quand même à une bonne clientèle qui est partie faire des tours dans le vignoble sur notre territoire, découvrir notre territoire. Hein. On est à la croisée des chemins, des voies vélos, des voies vertes, de la vélo francette. Donc 500, c'est quand même pas mal hein, parce qu'il y a d'autres loueurs sur la ville. Et puis il y a les vélos de la ville qui sont mis en libre service. Donc non, c'est pas mal. Et puis Nature Is Bike, c'est quand même un événement qui a lieu au mois de juin, en avant-saison, mais qui regroupe en effet tous les éléments de se déplacer en complète autarcie, de dormir dans des tentes éventuellement si on fait du bikepacking, et puis de maîtriser aussi la consommation de l'eau, de ne rien laisser derrière soi sur tout le parcours qu'on a fait depuis à Romanche, puisqu'on a lancé une course qui s'appelait Gravel of Legend au départ d'Aromanche, qui fait le lien entre les territoires et la ville d'Angers. Ce sont des territoires qui correspondent également à notre façon de faire et à notre état d'esprit.
Quand on regarde Angers comme ça, d'un œil extérieur, on pourrait se dire « Oh tiens, une ville étape supplémentaire dans la Loire à vélo ». Qu'est-ce qui fait qu'Angers est attractif pour les gens qui font la Loire à vélo et qui pourraient avoir envie d'y rester ? Parce que effectivement, peut-être que pendant la Loire à vélo, on va plus avoir tendance à vouloir s'arrêter à Tours ou à Saumur qu'à Angers. Comment vous voulez faire rester les touristes ?
C'est Angers, c'est ce French art de vivre qui met cette ville en avant. C'est son patrimoine, le château. En effet, c'est le dernier château de la Loire. On y vient en dernier, après Saumur. Mais notre château, il est médiéval, il est grandiose. C'est 17 tours. Les événements qu'on va pouvoir produire sur la ville, comme par exemple les animations qu'on a fait cet été avec Tempo de Rive, une proposition très intéressante sur le Jardin des Beaux-Arts et Musée Jean Lursa, des animations musicales très ouvertes, très contemporaines. On a eu plus de 21 000 spectateurs sur 21 dates.
D'où est-ce qu'ils viennent ces 21 000 spectateurs ?
Eh bien, d'où ils viennent ? Ce sont des touristes, ce sont des Angevins qui sont venus profiter des animations qu'on pouvait faire sur
ce
notre...
Ce sont aussi des touristes ?
Ce sont aussi des touristes, oui. On a fait un petit état des lieux et en fait, la répartition, elle est bien à 50-50.
Destination Angers propose une vingtaine de circuits de randonnée dans Angers et les alentours. On parle encore du réchauffement climatique. Si les écosystèmes sont menacés, à travers les incendies, à travers la sécheresse, et donc protégés, puisqu'on ne pourra plus aller se balader dans ces forêts, ou en tout cas moins. Qu'est-ce qui va venir remplacer tous ces circuits de randonnée qui sont quand même au nombre d'une vingtaine, donc c'est quand même un atout non négligeable.
Je pense quand même qu'on a une richesse patrimoniale sur la ville très intéressante et on peut se déplacer sans altérer notre territoire, nos berges, en faisant attention à l'eau, à tous nos déplacements, et on peut avoir toutes sortes de propositions, de visites, bien évidemment, sans se déplacer en voiture. Nous, ce qu'on préconise, c'est évidemment le déplacement en vélo. Et je pense qu'on pourra continuer à aller sur ces zones-là.
Je vais vous poser la question de la même manière pour la Loire à vélo. Si la Loire est à sec, si ces balades si prisées actuellement perdent en fréquentation, est-ce que Angers continuera à être une ville attractive ?
Bien évidemment, avec la richesse de notre culture, nos animations sportives et du déploiement de tout ce qu'on peut mettre en œuvre ici sur la ville, bien évidemment, on restera attractif. La preuve aussi avec l'arrivée des étudiants, nos 46 000 étudiants qui arrivent.
Je disais attractif au niveau touristique.
Oui, mais bien sûr, mais on est attractif au niveau touristique.
Vous pensez que les étudiants qui viennent à Angers pour les études viennent car c'est une ville touristique
Parce qu'ils trouvent que notre ville est bien équilibrée au niveau culturel, au niveau touristique. Les étudiants qui viennent sont toujours très intéressés. J'en ai croisé beaucoup cet été, compte tenu du fait qu'ils avaient trouvé des hébergements dès le mois de juin, eh bien, ils sont venus découvrir notre ville. Et je pense que c'est un vrai atout pour nous. Vous avez l'air dubitatif.
Non, j'ai pas l'air dubitatif, mais je pense à ces pauvres étudiants qui ont dû payer 2 mois supplémentaires. Parce que le marché
mais ils ont utilisé ces 2 mois pour justement visiter et connaître un peu notre ville et notre territoire.
Comment est-ce que vous travaillez avec les autres villes et villages du Maine-et-Loire ? Est-ce que vous avez une stratégie peut-être commune pour faire vivre le tourisme dans le Maine-et-Loire ? Parce que quand on pense au Maine-et-Loire, on ne pense pas forcément instinctivement à une terre de tourisme. Par rapport à la Bretagne, par rapport à l'arc méditerranéen, par rapport à la côte atlantique. Oh, je vais passer mes vacances dans le Maine-et-Loire, super.
Ah ben, je pense que bien évidemment, on travaille en étroite collaboration avec Anjou Tourisme, avec le département et toutes nos petites villes, avec les Mauges, avec le Saumurois, bien évidemment. Et c'est en lien et on construit même des ponts avec eux.
Quels sont-ils justement ? Quels sont ces projets que vous avez en commun ?
Eh bien, sur le montage de l'Eno Tourisme, on va faire une sorte de circuit entre plusieurs destinations. Et on va, à chaque fois que l'un va mettre en avant son programme touristique, on va le reprendre et on va le mettre en avant. C'est ce que fait Anjou Tourisme pour nous et c'est ce qu'on fait aussi pour les autres. Parce que je pense que quand on parle d'un territoire, on le parle dans sa globalité pour qu'il puisse faire venir autant que possible les étrangers. Donc, on parlait des étrangers qui sont revenus récemment, les Britanniques, les Hollandais, voilà, qui sont un peu plus férus de camping, mais pas que. Il y a eu pas mal d'Italiens et d'Espagnols. Ce qui était intéressant cet été, c'était d'entendre parler autant de langues. Et c'est vrai que les commerçants, les restaurateurs m'ont dit que c'était absolument très sympathique de pouvoir entendre parler autant de langues sur la ville d'Angers, à une période qui n'est pas si évidente que ça, au mois d'août, le 15 août. Mais je pense qu'on a su bien les accompagner de ce côté-là.
Merci beaucoup, Mathilde Favredan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes l'élue au tourisme et au rayonnement de la ville d'Angers et par ailleurs présidente de Destination Angers. Merci beaucoup.
Merci Hugo.
Tout de suite, petite pause musicale sur le 103 FM. Heures 28 et 30 secondes sur Radio Campus Angers. C'était Ebisoda avec leur titre Giraffe Bread sur le Centre FM. Tout de suite, un reportage de Sofia Pavanini que vous pouvez également retrouver sur murmure.com. Sofia Pavanini qui a été faire un tour à la Maison de l'Environnement.
À quelques kilomètres du centre-ville d'Angers et à quelques pas du lac de Maine, entouré de verdure, la Maison de l'Environnement porte bien son nom. Cet établissement de la ville d'Angers organise tout au long de l'année des ateliers pédagogiques, des activités sur le jardin bio qui l'entoure et surtout une programmation adressée à tous les publics pour sensibiliser au respect du vivant. Découverte du lieu dans le cadre du festival Fou d'Angers.
Corinne Amigouette et je suis responsable de la Maison de l'Environnement de la ville d'Angers, en fait, qui est un service de la ville, qui est chargé de sensibiliser les publics à la transition écologique. On traite beaucoup de sujets de la transition écologique, donc c'est très vaste. Et chaque année, en fait, notre programme varie en fonction des partenariats qu'on peut nouer avec les uns ou les autres. On va dire qu'on est orienté sur le grand public. Donc des animations grand public qui sont beaucoup cette année, en fait, autour de la biodiversité, de la nature, du végétal.
Et ça, nous, on les coupe un petit peu. Il y a une planche pour ça qui doit être là-bas.
Fou d'Angers, c'est une opération de la ville d'Angers qui existe depuis 5-6 ans déjà et qui célèbre, on va dire, la gastronomie et les vins de Loire. Et ce que nous ont demandé les collègues de la communication de la ville d'Angers, qui organisent l'événement, en fait, c'est de faire vraiment précisément un événement pour les familles et un événement sur la consommation responsable. Donc, à partir de ça, on a fait tout un canevas sur la journée avec les partenaires. Donc là, on a 5-6 partenaires qui collaborent à la journée.
Vous allez prendre votre tranche et vous allez bien.
Là, on a Bruno Coudert qui est en train de faire une dégustation aussi et puis à apprendre aux gens comment cuisiner végétal.
Choisissez celle qui vous plaît et puis vous trouvez les ingrédients ici.
Je suis en train de faire une recette de rillettes de haricots rouges aux noix. Je me suis dit que ça pouvait être marrant d'essayer d'autres recettes, des choses voilà, végétales, avec les fonds de placard.
Alors, je suis en train de faire une pâte à tartiner coco choco. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de proposé par Fou d'Angers et comme mes enfants sont là ce week-end, et ben on s'est inscrit et voici, on tartine.
Nous, notre programme, il est vraiment fait pour les familles. Les familles et les enfants, c'est vraiment ce qu'on cible au départ. Enfin, en tout cas, pour le grand public. C'est pour ça qu'on cible vraiment, par exemple, les vacances scolaires. La Maison de l'Environnement, elle existe depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, c'était finalement le début de plein de choses sur la transition écologique. Je dirais pendant longtemps, on s'intéressait beaucoup à la nature, à la biodiversité. Aujourd'hui, on sent qu'on évolue sur des sujets encore différents, un peu plus graves, je dirais, comme le climat, comme la réduction des déchets, parce qu'il y a 30 ans, ces problèmes-là n'étaient pas aussi peut-être prégnants. Donc l'évolution, on la sent depuis 2-3 ans en effet, enfin en tout cas dans la prise de conscience des gens, qu'il y a quelque chose à faire. Et nous, on essaie d'accompagner ce mouvement aux côtés de la ville d'Angers, d'Angers-Loire Métropole, qui mettent en place des politiques. Sauf que tu mets en place des politiques, mais ce qui est important, c'est aussi que les gens comprennent et qu'ils sachent quoi faire, en fait. Et donc, c'est là que nous, on intervient pour essayer d'accompagner les gens sur la compréhension des enjeux et sur le « qu'est-ce que je peux faire ?».
Pour en savoir plus sur la Maison de l'Environnement et sa programmation, rendez-vous sur le site angers.fr/mde.
Murmure.
C'était un reportage de Sofia Pavanini et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis parce que c'est déjà la fin de ce pédalo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à bord de notre embarcation favorite. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.